Cette formation rocheuse.
8h passées de 5 minutes sur Aligre FM 93.1. C'est Voix contre Oreille, vous êtes avec Michel jusqu'à 9h. On se retrouve comme tous les mercredis entre 8 et 9. Très bon réveil à tous. Et aujourd'hui, donc, le thème de notre émission, c'est le Grand Paris, ces projets pharaoniques, ces grands projets inutiles. Et ce sera une émission en partenariat avec l'association Pour une Constituante. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association Pour une Constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Donc on est fidèle à ce micro.
Bonjour.
Tu as choisi aujourd'hui de préparer une émission sur le thème du Grand Paris.
Tout à fait.
Voilà. Alors avec donc comme invité Jean-Pierre Garnier. Bonjour.
Salut.
Salut, salut. Donc vous ou tu, je sais pas.
Tu peux dire tu.
Et urbaniste, sociologue urbain. C'est ça. Tu as fait une longue carrière en tant qu'enseignant-chercheur.
Technocrate au départ.
Technocrate. Et on te qualifie comment d'observateur critique du projet Grand Paris ?
Oui, puis je participe aussi, comme d'autres, à quelques manifestations sur quelques sites emblématiques.
Voilà. On verra pourquoi. Et nous sommes autour de la table également avec Ptolémée. Bonjour.
Bonjour.
Donc tu es membre de l'Assemblée des collectifs en lutte contre le Grand Paris, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça.
Et également donc observateur, critique, acteur du projet.
Observateur en tout cas. Ouais.
Et donc on aura au téléphone tout à l'heure Nadia Ménager. Pardon ?
Ménager.
Ménager, qui est donc résidente de Châtenay-Malabry, membre du DAL, et qui donc nous parlera des opérations en cours dans les cités-jardins de Châtenay-Malabry. Voilà pour notre programme, ça sera au téléphone et en deuxième partie d'émission. Alors Clément, donc, qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce sujet du Grand Paris ? Pourquoi t'as choisi ce sujet ?
Alors différents éléments, c'est pas la première fois qu'on en parle. Hein. On a parlé du Triangle de Gonesse, on a parlé des JO, on a parlé de Saclay. Et donc là, je voulais faire un peu une émission plus générale d'une part, et aussi tout en parlant d'un lieu local. Donc on parlera de Châtenay en deuxième partie d'émission. Donc plusieurs raisons derrière ça. D'abord celle la plus récente, la plus médiatisée, celle des coûts. Donc on voit petit à petit que les lignes de métro finalement vont peut-être pas se faire dans l'ordre prévu. Elles vont peut-être qu'il va falloir prioriser les lignes liées au JO. Il va falloir mettre des points stratégiques parce que les sous sont peut-être pas tous là au bon moment parce qu'on aura peut-être pas le temps finalement de faire tout dans le bon ordre. Donc on a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti assez récemment qui met ça bien en évidence. Donc ça c'est une première raison. Une deuxième raison c'est toujours la même chose. Donc beaucoup de projets avec une consultation de la population qui est pas toujours présente.
Elle est bidon comme d'habitude.
Qui est bidon. Qu'est-ce que vous en pensez de cette consultation?
Ça participe des stratégies d'enfumage pour obtenir l'acceptation de population qu'on met devant le fait accompli.
Mm-hmm. Ça, c'est généralisé.
C'est toujours comme ça.
Ouais,
oui, il faut dire que c'est la règle. Hein. Okay. Je n'ai jamais vu un seul projet qui était infléchi par des consultations. Le seul projet qui était infléchi, et même pour l'instant abandonné, c'est l'aéroport des Landes. Mais là, ce n'était pas de la consultation, c'était de l'opposition active et organisée.
C'est ça, donc du coup, peut-être que c'est ce qui est attendu pour les différents endroits du Grand Paris. Donc... première chose, est-ce qu'il y a opposition de la population, des populations locales, des différents endroits ? Est-ce que finalement les gens, sans forcément s'exprimer s'ils n'ont pas la possibilité de le faire, est-ce qu'il y a une opposition, en tout cas, dans le ressenti en tout cas, des gens ?
Non, il faut bien reconnaître que l'opposition est pour l'instant minoritaire. Elle est composée de gens... Alors, il faut distinguer aussi. Il y a les gens qui habitent sur les territoires qui vont être affectés, mais beaucoup de ces territoires sont des territoires qui sont encore agricoles. Alors, il y a effectivement des agriculteurs qui s'opposent à ces projets-là, étant donné qu'on sait ce que ça signifie, la bétonisation. On va remplacer par du logement ou des bureaux des espaces qui sont pour l'instant cultivés. Il y a d'autre part... beaucoup. Alors, en ce qui concerne les opérations qui impliquent l'expulsion de gens qui habitent dans certains territoires, là, il y a quelques oppositions organisées dans des associations et des comités. Bon, on en parlera. L'exemple le plus frappant, c'est celui de, entre autres, celui de Châtenay-Malabry à la Butte Rouge, qui est une cité-jardin modèle. J'anticipe pas sur ce que dira Nadia. Mais il faut bien le dire qu'effectivement, la majeure partie des gens ont une vague idée de ce qu'est le Grand Paris, parce qu'ils en entendent parler sans arrêt, hein, à la télévision. Ceux qui regardent les réseaux sociaux, ils ont droit aussi à de la propagande, il faut bien le dire. On a des discours où tous les élus locaux, à de rares exceptions près, quelques écologistes, que j'appelle escrologistes, comme on les appelle au Tréport, eux, ils appuient un parc éolien de 62 éoliennes de 200 mètres de haut chacune. Là, il y a une opposition. On les appelle là-bas, les pêcheurs, les appellent les escrologistes. Hein, c'est vert. Ou verdâtre, si vous préférez.
C'est où ce parc éolien ?
Au Tréport, en face du Tréport et de Mers-les-Bains.
Oui. Donc c'est encore le Grand Paris ou...
Ah non, c'est pas du tout
d'accord.
Le Grand Paris.
Là,
c'est la transition chère à Mélenchon écologique. Hein. Bon, mais je ne vais pas parler du Tréport aujourd'hui. Alors, oui, effectivement, l'opposition, malheureusement, elle est encore minoritaire. Et vous avez beaucoup de militants qui ne sont pas directement affectés par ces projets, sinon globalement. Mais là, on en reparlera, parce que vivre dans une métropole, entre guillemets, c'est surtout eux et puis ceux qui vont venir après. Moi, vu mon âge, je ne serai pas trop affecté. Mais les jeunes générations et celles qui suivront, j'en souhaite bien du plaisir de vivre dans une métropole qui aura à peu près 14 millions d'habitants, au bas mot, et avec tout ce que ça implique, hein, en ce qui concerne la pollution, les transports, le renchérissement des prix, l'accentuation de la ségrégation, j'en passe et les meilleurs, on pourra en reparler.
Donc le Grand Paris, ce n'est pas seulement l'allongement des lignes de métro, ce qui pourrait sembler être une bonne nouvelle, cet allongement des lignes de métro.
Oui, on peut parler d'une manière plus générale des rapports qu'il y a entre la métropolisation et un phénomène beaucoup plus global qui est la mondialisation du capitalisme. Qu'on appelle mondialisation, à mon avis, à tort, comme si ça existait depuis les années, disons, 80, 70. La mondialisation du capitalisme, je ne vais pas faire le pédant, enfin, comme c'est ma discipline, elle a tout de même commencé au milieu du 16e siècle avec les grandes découvertes. Le capitalisme marchand et bancaire a commencé à s'étendre dans le monde avec la découverte de l'Amérique latine et puis aussi les comptoirs en Méditerranée qui allaient vers jusqu'à l'Empire ottoman, etc. Et ça, c'est une mondialisation qui n'a fait que croître et s'intensifier. Il y a un autre terme qui est utilisé, qui est plus adapté, c'est la globalisation du capitalisme. Dans l'esprit des gens, ça veut dire c'est tout le globe terrestre qui est concerné. C'est exact. Mais bon, c'est pas très précis sur la réalité du processus. On peut dire que c'est global dans la mesure où ce processus englobe tous les aspects de la vie sociale et individuelle des gens. Le capitalisme envahit, on peut dire, toutes les sphères d'activité, l'art, la santé, l'éducation, hein, tout se vend, tout s'achète, comme on disait en mai 68, etc. Ça s'est intensifié. Et c'est pas l'ère numérique qui va réduire, ou l'ère digitale, comme on dit aujourd'hui. Au contraire, vous avez les grandes multinationales de cette ère numérique qui vont s'emparer de cela. Moi, j'utilise comme un certain nombre d'autres un autre concept, c'est la transnationalisation du capital. Ça veut dire quoi très concrètement ? C'est qu'on peut dire que jusque dans les années 1970 du siècle dernier, le capitalisme se développait à l'intérieur du cadre national, de l'État-nation. C'est là-dedans qu'il prospérait, avec toutes les rivalités internationales qui ont donné lieu, entre autres, à deux guerres mondiales. Depuis, on peut dire, les années 70, il y a ce qu'on appelle une autonomisation des firmes, des conglomérats, des grands groupes bancaires, industriels, commerciaux, internet et compagnie, électronique, une autonomisation par rapport au cadre de l'État-nation. Maintenant, les responsables de ces groupes-là, ce qui les intéresse, c'est pas un pays avec ses frontières nationales, ce sont certaines régions urbaines dans le monde qui vont servir de point d'ancrage et de point d'appui à l'expansion du capital. Ces régions urbaines, on les a baptisées depuis, on pourrait dire, la fin des années 80, surtout le début des années 90, métropoles. Mais les métropoles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont, en gros, des grands pôles urbains où vont se concentrer les activités décisionnelles, directionnelles, les centres de commandement, avec tous les services annexes, le conseil, la banque, la pub, etc., sur certains points de la planète, où on va agglomérer, c'est le cas de le dire, toutes ces fonctions, j'allais dire, haut de gamme, avec les équipements qui vont avec, avec les logements qui vont avec, aux dépens, premièrement, du reste des pays concernés, c'est-à-dire que la polarisation urbaine sur quelques métropoles, on pourra en reparler en France, se fait sur certaines métropoles, ça a été du temps de Hollande qu'on les a baptisées métropoles, qu'on les a classées en deux phases, hein. C'était du temps, la dernière phase de l'ignoble Manuel Valls, Premier ministre. Pour résumer, pour les gens qui ne savent pas, officiellement classé comme métropole, je fais le tour de l'Hexagone, hein, ça commence par Lille, bon, laisse Paris, hein, Paris, hein, Lille, ensuite vous avez Rennes et Nantes, on a inclus Caen et Rouen, c'est ridicule quand on compare ces villes-là, je ne veux pas faire les Rennais et les Canais, je ne veux pas leur faire un déplaisir, mais il faut reconnaître que métropole, ça fait le poids à côté de Shanghai, hein, bon. Ensuite, c'est Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, ils ont beaucoup de mal. Bon, si Mélenchon arrive au pouvoir, effectivement, il fera la même politique que les Verts et les Roses et les Rouges de Grenoble. Ensuite, je termine la liste, Lyon, on remonte, Strasbourg, et c'est terminé. Voilà, les métropoles. Résultat, le développement des unes va aller avec le sous-développement du reste du territoire. Et on va en parler tout à l'heure. À l'intérieur des métropoles, il va y avoir une accentuation de la ségrégation sociale et spatiale.
Alors, ouais, bah vas-y Clément. Ouais.
Est-ce que cette ségrégation-là, elle vient nécessairement de la concentration des services, par exemple, dans ces grandes métropoles ? Est-ce qu'elle ne vient pas aussi de l'agglomération des gens en dehors des activités économiques ? Est-ce qu'il y a un lien forcément entre les deux ? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec ce processus de grand-parisation de la métropole ?
Bon, je vais quand même dire, je m'excuse de le rappeler, en bon marxiste ou marxien que je suis plutôt anarcho-marxiste, hein. Je ne suis pas marxiste orthodoxe. Dans une société de classe, il y a toujours eu de la ségrégation urbaine. Je ne vais pas vous faire un récit sur Athènes dans la Grèce antique, ou la Rome des empereurs, les villes médiévales, et puis on peut remonter du temps de l'aristocratie, de l'Ancien Régime, puis on peut remonter du temps de la bourgeoisie qui arrive au pouvoir en 89-90, Haussmann, les grands travaux, jusqu'au schéma directeur de la région parisienne, auquel j'ai collaboré, parce qu'il fallait à l'époque être affecté pour trouver un boulot, 1965. Il y a toujours eu, dans une société de classe, une ségrégation sociale et spatiale entre ce qu'on appelait jadis les basses classes et les classes supérieures. Et aujourd'hui, ça se fait comme avant, avec un nouvel acteur qui prend de plus en plus d'importance entre ceux du haut et ceux du bas. Vous avez ce qu'on appelle officiellement les classes moyennes salariées, ce que moi j'appelle la petite bourgeoisie intellectuelle, ingénieurs, cadres, enseignants, chercheurs, les créatifs, les créateurs en tout genre, dont je fais partie, dont vous faites partie aussi. Et c'est cette